Mercredi 20 septembre. Alors ça commence à faire un petit peu loin, c'était il y a 10 jours. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le mercredi 20 septembre? Non. C'est passé plein de choses, oui. Mercredi 20 septembre, 160 personnes étaient conviées à un dîner royal. Souvenez-vous, un banquet, un festin qui en a ébloui plus d'un puisque le roi Charles III était de passage en France et qu'il a été invité par le président de la République à Versailles. Rien que ça, une table de 62 mètres. Découvert, placé au millimètre, l'arrivée de chaque convive planifiée à la minute, un menu digne des plus grandes tables avec les mets français les plus raffinés. Tout cela validé à la fois par le palais de l'Élysée, et le palais de Buckingham. Tout semble avoir été fait pour impressionner le souverain du Royaume-Uni et d'autres contrées. Parce qu'un tel repas ne s'improvise pas, une liste d'invités triés sur le volet, un protocole extrêmement précis et un plan de table vu et revu maintes fois ont dû être établis. Et pour ne pas créer de jalousie, tous les invités ont même mangé à la table du roi. Alors cela ne sera une surprise pour personne, mais je n'étais pas invitée à ce banquet. Et je ne connais d'ailleurs personne, personnellement aucun des invités de ce banquet. Bon, finalement, hein, la longue liste d'invités plus ou moins prestigieux et méritants me laisse assez indifférente. Pour tout vous dire, si j'avais été invitée, c'est jamais... je ne sais même pas si j'y serais allée. J'aurais pas été à ma place. Je sais pas. Être assise à la table d'un roi. Pas la bonne tenue, pas la bonne conversation. Qu'est-ce que j'aurais bien à pouvoir à dire? Pas de statut prestigieux à mettre en avant. En revanche, j'ai été invitée à un festin, un banquet, un dîner de gala. Plus prestigieux que tous les événements mondiaux. Oui, j'ai la plus grande joie d'avoir été moi, invitée au festin du royaume de Dieu. Oui, moi. Et cela a été assez surprenant. Et figurez-vous que si moi j'ai été invitée à ce banquet, eh bien vous, oui, vous aussi vous l'êtes. Et la question étant, qu'allez-vous faire ? Jésus, dans l'évangile de Luc, parle à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, de repas, de festins, de banquets. Jésus, on l'a accusé de trop manger, de trop faire la fête. Jésus a assisté à un banquet et nous en lisons un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 14, à partir du verset 1. Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdèmes se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit au professeur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, aussitôt même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Oui, une nouvelle fois, Jésus est à table. Il est invité chez un des chefs de pharisiens, un jour de sabbat. Contrairement au dîner de Versailles, il n'y a pas de plan de table défini, mais chacun semble pouvoir choisir sa place. En fait, il doit y avoir une sorte de plan de table, mais implicite, car chacun se jauge, s'évalue, se regarde, s'observe. Et chacun se place là où il semble qu'il est respectable, qu'il s'assoit. Chacun choisit avec soin ses voisins et la distance qu'il occupe par rapport à leur hôte. Et contrairement à une salle de classe, il semblerait que ce soit bien les premiers rangs au plus près de l'hôte qui soient les plus populaires. Parmi les convives se trouve bien évidemment Jésus. Et rien n'est dit de la place qui lui est donnée d'ailleurs, ou la place qu'il occupe. Se trouve également un homme qui semble être un personnage secondaire de l'histoire. On l'oublie vite d'ailleurs. Un miracle, un jour de sabbat, un de plus. Et pourtant, cet homme est le personnage le plus important de l'histoire après Jésus. Cet homme qui ne paye pas de mine est la personne centrale de tout ce texte après Jésus. Un homme qui est rempli d'œdème, il souffrirait vraisemblablement d'un œdème généralisé. Ses membres, ses mains, ses pieds, son visage, tout son corps est gonflé. Il doit faire peine à voir. Cet homme inspire du dégoût, du rejet, de la honte. Plus encore, cet homme, personne ne doit vouloir s'asseoir à côté de lui. Nous pouvons imaginer qu'il est assis tout au bout de la table, mal à l'aise, ne sachant pas trop où se mettre, ne sachant pas trop quelle attitude avoir. Rien n'est dit d'ailleurs de la raison pour laquelle il a été invité. Est-il là, selon certains, pour tendre un piège à Jésus ? Est-il un membre de la famille qui ne pouvait pas ne pas être invité ? On ne sait pas. Et peut-être que son désir de voir Jésus a surmonté son premier réflexe de se cacher, de s'enfuir au plus vite. Il n'est pas dupe, cet homme, il voit bien que chacun des convives choisit sa place avec soin et cherche surtout à être le plus loin possible de lui-même. Lui qui, clairement, ne mérite pas d'être assis à cette table. Jésus voit ce qui se passe et ne reste pas indifférent. Jésus n'est jamais indifférent face à l'injustice, face à la vulnérabilité, face à la souffrance humaine. Piège ou pas piège, scruté par les pharisiens, peu importe, la première chose qu'il fait, c'est de le guérir, de le purifier là, immédiatement. Puis il le renvoie. Vous avez noté ça? Jésus le renvoya. Jésus, dans sa compassion, dans son amour, dans sa clairvoyance, guérit cet homme et le renvoie. Est-ce que nous pouvons penser que peut-être il veut épargner à cet homme le supplice de rester à cette table, au milieu de cet auditoire qu'il a méprisé? Jésus l'excuse, cet homme, le dernier des derniers, au bout de la table, qui cherche à se cacher. Jésus le voit, Jésus le guérit et Jésus lui donne la permission de partir. Il peut se retirer la tête haute. Il peut quitter cette assemblée qui n'a rien compris, cette assemblée qui n'a pas vu sa valeur. Et c'est seulement quand il est parti que Jésus adresse alors la parole sévèrement. Il reprend le reste des convives. Ces convives cherchaient à se mettre en ordre selon ce qui est honorable, respectable, ce qui se fait, pour ne froisser la sensibilité de personne, chacun selon son statut, sa valeur, sa réussite. Et ce faisant, il faisait bien attention de marquer la séparation de ce qui ne leur convenait pas, de ce qui était en dessous d'eux, de ce qui leur est étranger, en l'occurrence plus spécifiquement ici de cet homme malade. Ils s'invitaient entre eux et invitaient ceux qui pourraient leur servir à quelque chose, leur rendre l'appareil ou leur être redevables d'une manière ou d'une autre. Nous sommes au 1er siècle et au 1er siècle, le système de patronage, de redevabilité était, ne l'oublions pas, extrêmement présent. Il y avait des codes d'honneur à respecter et chacun cherchait à s'assurer la protection de quelqu'un de plus fort en échange d'un service quelconque. C'est le contexte du 1er siècle. Aujourd'hui, cela n'est pas complètement absent de nos rapports, de nos relations. Bon, de manière assez triviale, c'est vrai que je me suis souvenu qu'on m'a dit qu'il est commun sur les réseaux sociaux que quand quelqu'un vous suit, eh bien vous lui suivez en retour. Et finalement, on suit quelqu'un sur Instagram, par exemple, en espérant très fortement que cette personne le fera. Apparemment, c'est quelque chose d'assez implicite. Il y a une réciprocité un peu comme ça, de manière un peu implicite, jusque dans les réseaux sociaux. Donc il y a quelque chose de cela. Mais au 1er siècle, c'était très fort. Il y avait on était toujours redevable, plus ou moins redevable à quelqu'un, et qui pouvait faire appel à nous à un moment et nous faire intervenir cette redevabilité. On devait quelque chose à quelqu'un. Alors bien sûr, il est bon de parler collaboration, entraide, réciprocité, mais pas dans une faim et une soif des honneurs des hommes, ou de trouver sa valeur, sa gloire, son importance ailleurs qu'en notre Dieu. Et Jésus reprend les convives présents. Ils se choisissaient les meilleures places, ils invitaient ceux qui pouvaient leur être bénéfiques. Ils s'auto-évaluaient, évaluaient leur statut et pouvaient ainsi se placer selon leur propre estime d'eux-mêmes. Jésus les reprend. Parce que d'abord, ce n'est pas juste de se comporter ainsi et de mesurer sa valeur, de se comparer aux autres moyens de critères humains, maintenant dans cette vie. Ensuite, donc c'était une erreur d'évaluer l'autre, de se jauger, de se regarder, de se juger, en fonction de critères tout simplement humains. Mais Jésus aussi les avertit, comme il l'a déjà fait dans les chapitres précédents de l'évangile de Luc. Les avertit de ne pas être trop imbus d'eux-mêmes. Ceux qui se pensent méritant tous les honneurs, car un jour ils risquent d'être surpris. Il les reprend en insistant sur le fait que le royaume de Dieu ne suit pas les critères et les principes humains et que pour comprendre le royaume de Dieu, pour y entrer même, pour trouver la porte ouverte, il nous faut reconsidérer notre vie complètement, nos valeurs, nos critères. Parce que notre Dieu, dans sa générosité, sa grâce et sa compassion, ouvre le royaume de Dieu à tout être humain qui le souhaite. Tout être humain a cet accès possible et reçoit la même invitation. La décision d'y répondre et de venir lui revient à chaque être humain. Et il n'est pas question de mérite. Il n'est pas question de gloire personnelle, de valeur supérieure à d'autres. Le royaume de Dieu est ouvert à tout être humain qui le souhaite, sans ségrégation, sans différenciation. La seule exigence que pose le Christ est son propre exemple. Un exemple de service, un exemple d'humilité. Et Jésus-Christ est notre modèle à suivre pour cette vie afin d'être assuré de trouver la porte ouverte lorsque le festin sera enfin prêt. Jésus-Christ est allé vers tous ceux qui savaient qu'ils avaient besoin de lui. Il est allé vers tous, mais il ne s'est pas attardé là où on n'avait pas besoin de lui. Il ne s'est pas attardé là où on ne voulait pas de lui. Notre modèle, Jésus-Christ, est devenu homme. Il s'est abaissé jusqu'à devenir comme nous, faible et vulnérable afin de servir son peuple. En effet, il est venu pour servir et ne s'est pas attaché à son statut de fils de Dieu. Et à notre tour, nous sommes appelés à le servir, à servir notre prochain. Peu importe notre place, du moment que nous sommes à la table du roi. Peu importe si nous sommes les premiers, les derniers, du moment que nous sommes à la table du roi. Heureux, oui, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Ce repas, ce festin, ce banquet que le prophète Ésaïe avait annoncé. En Ésaïe 25, versets 6 à 9, je lis. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle et de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples. C'est Ésaïe qui dit ça. La couverture qui est déployée sur toutes les nations, il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel. C'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'est ce banquet, ce festin, ce repas du royaume de Dieu, le festin des noces de l'agneau que l'on trouve dans l'Apocalypse. Cette bonne nouvelle, cette invitation a été d'abord annoncée et lancée au peuple d'Israël, les premiers. La plupart l'ont refusée et continuent de la refuser. Mais le banquet est bientôt prêt, il reste de la place. Il reste de la place à la table du roi. L'invitation, notre Dieu la lance depuis 2000 ans, à toutes les nations, à tous les peuples, des plus grands aux plus petits, des premiers jusqu'aux derniers. Venez, venez, du plus proche, le peuple d'Israël, jusqu'au plus loin, les peuples qui n'ont peut-être pas encore entendu aujourd'hui, en 2023, parler de Jésus-Christ. Le Dieu de l'univers appelle, venez, venez, il y a de la place. Cette invitation, elle nous est lancée, mais qu'est-ce que nous en faisons? Si nous donnons la priorité à autre chose qu'à Christ dans notre vie, les excuses de ces hommes, notre carrière, notre richesse, nos possessions, notre famille, nos loisirs, alors nous risquons de trouver porte close. Et encore, ce verset résonne dans nos cœurs. Cherchez d'abord, avant tout, le royaume de Dieu. Et cela vous sera donné en plus. Certains, effectivement, seront surpris de trouver la porte close ou tout simplement ne se présenteront pas. Ils ne goûteront pas aux richesses de ce banquet. Ceux qui méritent d'être présents n'y seront pas. Mais par contre, seront présents les aveugles, les boiteux, les estropiés, les pauvres, c'est-à-dire les faibles de ce monde, c'est-à-dire nous. Réjouissons-nous de voir des hommes, des femmes, des enfants de tous les continents, de toutes les nations, de toutes races, rejoindre l'Église de Christ, l'Église de ton nom même, et fêtons ensemble avec allégresse la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui dit que nous ne sommes pas des VIP de la société, nous ne sommes pas des VIP de l'Église, nous ne méritons pas d'être invités. Nous ne faisons pas partie des parfaits. Nous ne méritons pas notre invitation. Nous ne sommes pas les premiers, d'ailleurs, à avoir été invités au banquet. Et pourtant, nous sommes sur la liste. Simplement par amour. Sans autre raison. Sans autre raison que Dieu a voulu que nous y soyons. Car nous savons que nous avons reçu l'amour sacrificiel de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et ait accès à ce royaume de Dieu. Ce Dieu nous a tellement aimés, et il l'a prouvé. De quoi pourrions-nous avoir besoin de plus? C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous dit Romains 3, 22, et suivant, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a toujours pas. Lorsque Luc écrit, c'est... Cet évangile, il écrit aux chrétiens d'origine juive. Non, en plus, ce n'est pas vrai. Lorsque Luc écrit son évangile, il s'adresse à Théophile, qui est plutôt un chrétien d'origine grecque. Mais lorsque Luc écrit, les chrétiens d'origine juive, les judéo-chrétiens avaient du mal à accepter les chrétiens d'origine païenne. Ils avaient du mal à laisser de la place à ceux qui étaient différents, à ceux qui n'étaient pas les premiers. Et est-ce qu'aujourd'hui, parfois, nous n'avons pas du mal à donner une place d'importance à ceux qui sont différents ? Est-ce que parfois, nous regardons nos frères et sœurs avec un peu de dureté et de jugement. Prenons garde. Enfin, à la table de notre Dieu, le roi de l'univers, c'est lui qui établira le plan de table. Et il y aura des surprises. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, il nous place là où il veut. C'est lui qui met en avant qui il veut. Et les paroles de Jésus nous le rappellent aussi pour aujourd'hui, Cela nous encourage à non seulement ne pas nous enorgueillir de la place que nous avons, mais aussi parfois à ne pas refuser une place où Dieu nous veut. Yann Arthus Bertrand, le photographe français, faisait partie des invités du dîner de gala à la Galerie des Glaces. Mais à la vue de cette liste VIP, il ne peut s'empêcher de remarquer les grands absents, dit-il. Il manquait des vrais Français, comme un boulanger, un postier, un conducteur de train qui relie la France à l'Angleterre, suggère le photographe. Et cette phrase, ce genre d'événement devrait être plus ouvert. C'est un peu dommage, dit-il, que les participants ne soient que des gens pas si étonnés que ça finalement d'être là. Pas si étonnés que ça d'être là. L'événement du repas dans le royaume de Dieu est ouvert. On ne peut plus ouvert. Et les participants ne seront que des gens, en somme, étonnés d'être là. Nous le savons que nous y serons, mais des gens surpris, reconnaissants, tellement reconnaissants d'être là, tellement heureux d'y être, mais toujours aussi étonné d'avoir été choisi, invité. À cet événement du repas du royaume de Dieu, nous remarquerons de grands absents, pourtant invités, et nous serons surpris par quelques présents, c'est sûr. Mais ô combien est grande la générosité de Dieu! Ô combien sa grâce nous dépasse! Ô combien sa sagesse dépasse toute raison humaine! J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être avec vous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci, merci de nous avoir invités à ta table, à la table du roi. Merci parce que tu nous as vus. Tu nous vois. Et que tu ne restes pas insensible, parce que tu nous aimes. Oui, nous attendons ce jour. Nous attendons cette fête. Permets, Seigneur, que dans ta grâce, nous soyons prêts. Que dans ta grâce, nous puissions répondre et tenir ferme. Aide-nous à revoir nos priorités, aide-nous à revoir nos évaluations les uns des autres et à grandir toujours plus dans notre amour pour toi et notre amour pour notre prochain. Oui, l'invitation est lancée, Seigneur. Merci pour ta patience qui continue. Notre Dieu, toi qui continues d'envoyer les invitations sans relâche. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle qu'il y a encore de la place. Oui, nous voulons proclamer cette bonne nouvelle qui s'adresse à tous, sans différence. Oui, merci pour ton amour, notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, souverain du monde. À toi soit l'honneur, le règne, la puissance et la gloire, pour l'éternité. Amen.